Alors, notre Dieu est-il contre nous? Je me demande si vous posez de temps à autre cette question vous-même. Il ne s'agit pas de doute ici à propos de l'existence de Dieu, ni d'une question par rapport à la bonté de Dieu, mais plutôt une question à propos de la faveur de Dieu à notre égard. Notre Dieu est-il contre nous? Forcément, c'est une question qui se pose par quelqu'un qui croit, un croyant en Dieu, mais qui doute de ce que Dieu fait par rapport à lui ou par rapport à elle. J'ai eu un échange cette semaine avec quelqu'un qui n'est pas de cette église, qui disait avoir fait juste ces deux, trois dernières années des tentatives de suicide, car elle se sentait vraiment tout au bout de ses forces. Un concours de circonstances faisait que cette personne avec quatre enfants allait se retrouver dans la rue. Et sa conclusion à elle, qui elle avait été abandonnée dans le passé par son père, par sa mère, c'était que Dieu lui a abandonné. Dieu ne m'aime plus, Dieu m'a abandonné. C'est ça ce qu'elle m'avait dit. Mais d'autres questions, pas celle-ci, Dieu est-il contre nous, d'autres questions expriment un cœur qui cherche à s'éloigner de Dieu. Donc si on demande si Dieu existe, selon la Bible en tout cas, cela révèle un cœur qui cherche la liberté de toute contrainte, de toute autorité au-dessus de nous. Pourquoi dois-je rendre mes comptes à qui que ce soit? Dieu existe-t-il réellement? Et demander si Dieu est bon, lorsque nous voyons certaines choses qui se passent dans notre monde, de nouveau dans la Bible, révèle un cœur de quelqu'un qui pense pouvoir juger Dieu. Et donc, se prétend avoir toutes les cartes en main pour exercer un tel jugement. De telles personnes expriment un cœur qui cherche à s'éloigner de Dieu. Mais la question « Dieu est-il contre nous ?» est une expression qui exprime la crainte que Dieu s'est éloigné de nous. Croire cela, hein, c'est de nous approcher du désespoir. Si Dieu nous a abandonnés, où irions-nous? C'est sombre, une telle pensée, n'est-ce pas? Peut-être au fond de votre propre cœur, de temps à autre, une telle question est là ou a été là. Cette question se trouve sur les lèvres du roi David dans le psaume 60. Est-ce que vous savez cela? David, en tant que roi d'Israël, qui représente toute la nation donc d'Israël, le peuple de l'ancienne alliance, exprime son désarroi au nom de toute la nation. Ô Dieu, à partir du verset 3, tu nous as repoussés, dispersés, tu t'es irrité. Verset 5, tu as fait voir des dures épreuves à ton peuple. Tu nous as fait boire du vin qui nous a étourdis. C'est dur ce qu'ils ont dû vivre. Verset 6, en fait, le verset 6 varie selon les traductions. Selon notre texte, nous avons le négatif toujours. C'est le peuple qui devait fuir devant les archers. Mais dans des plus vieilles traductions du second, peut-être vous avez ça sous les yeux, le signal était plutôt pour se rassembler autour de la vérité. Mais peu importe si le positif commence au verset 6 ou juste le verset plus tard, le sens de ces premiers versets va dans le sens du négatif. C'est difficile de subir la défaite aux mains d'un Dieu puissant. Nous ignorons en fait les détails qui suscitaient ce psaume. Mais il paraît qu'il y avait une défaite militaire conséquente pour le peuple de Dieu dans ses tentatives de posséder le pays promis à Israël par le Seigneur lui-même. Il semble que les Édomites, les descendants d'Ésaü avaient mené une victoire contre Israël. C'est vrai que le titre de ce psaume, peut-être ça aussi, vous l'avez observé, verset 2, parle plutôt d'une victoire d'Israël, n'est-ce pas? Sous la direction de Joab contre les Édomites. Mais le verset 2 dit également que le psaume a été écrit pour enseigner lorsqu'il fit la guerre. Et donc cela nous fait comprendre que le psaume précède la victoire contre les Édomites. Cette victoire, nous pouvons en savoir plus en lisant 2 Samuel chapitre 8 ou 1 Chronique chapitre 18. Mais juste avant alors cette victoire, David composait ce psaume après une défaite pour le peuple de Dieu face aux Édomites. Une défaite donc décourageante à tous égards selon ce psaume. Le Dieu d'Israël, il se bat, hein, soi-disant, pour Israël, n'est-ce pas? Mais chose inattendue de leur point de vue, sa main tombe contre son propre peuple. Verset 4, on entend le ressenti de ce qui s'est passé. Tu as ébranlé la terre, tu l'as fendue. C'est comme lors donc d'un tremblement de terre, où on peut penser à l'explosion à Beyrouth il y a quelques semaines, la dévastation que cela a causé. Terriblement lourd de devoir faire face à cela. Verset 5, tu nous as fait boire un vin qui nous a étourdis. Cela évoque d'autres textes où le vin représente la colère de Dieu, la fureur de Dieu. C'est lourd à porter cela pour le peuple de Dieu. On perd l'équilibre comme un ivrogne. C'est déstabilisant, c'est décourageant. Ce qu'on croyait être un pôle fixe dans la vie, que Dieu est pour nous, s'est retourné plutôt contre nous. Dieu est-il alors contre nous? Ce n'est pas de question réservée uniquement pour le peuple d'Israël. À l'époque de David, non, le peuple de Dieu, encore aujourd'hui, peut se trouver dans une telle situation. Jeudi dernier, lors de la réunion de prière ici, Samuel, qui préside notre réunion ce matin, assistait à une réunion de fermeture d'église. C'était une réunion administrative pour la dissolution de la plus vieille église de notre association d'église ici en Belgique, à Warkini. C'est vrai qu'il y a des circonstances économiques qui font que parfois il n'y a plus du monde dans un endroit et donc les églises aussi doivent représenter là où il y a du monde. C'est vrai aussi que le Seigneur dit dans le livre d'Apocalypse qu'il peut enlever le chandelier d'une église locale. Nous n'avons pas une place garantie en tant qu'église locale jusqu'au retour de Jésus-Christ. Mais toutefois, c'est triste. Et si on faisait partie de cette église, lorsque de telles choses arrivent, on peut se demander, Dieu est-il contre nous? Peut-être vous avez connu un tel moment au sein d'une autre église, vous. Ou peut-être vous l'avez connu au sein de cette église à un moment donné. Ce n'est pas agréable de devoir faire face à cela. Et la question se pose également sur le plan personnel, n'est-ce pas? Quelqu'un, ce dernier temps, devait subir plusieurs opérations pour des difficultés de jambes et juste après avoir été rétabli, une nouvelle fois cette année-ci, elle s'est blessée de nouveau au genou. Elle doit se faire opérer une nouvelle fois. Dieu est-il donc contre moi? Ou certains d'entre nous savent ce que c'est de vivre en couple, dans le ménage, où il y a un comportement, une critique qui met en danger le couple, malgré tant d'années de sacrifices pour bien construire dans la famille. Et lorsque de telles choses arrivent, Dieu est-il contre moi? Peut-être on sait ce que c'est de se retrouver au chômage, après un long moment de travail fidèle dans une société. Dieu est-il contre moi? Que faire lors de telles circonstances dans la vie? Alors la deuxième partie du psaume annonce bel et bien que Dieu est pour nous, le peuple de son alliance, et cette partie nous exhorte à la fin, vous le voyez, et au début, à faire appel à lui. Dans verset 7, moment de transformation dans le psaume, « Afin que tes bien-aimés soient délivrés, sauve-nous par ta main droite et exauce-nous. » Que fait un croyant? Il fait appel à Dieu. Il ne cache pas sa déception par rapport à ce qui s'est passé. Il lutte avec Dieu. Il lui parle et en lui parlant, il réfléchit. Car verset 7, vous voyez, c'est une prière, « Sauve-nous par ta main droite ». Verset 13, c'est une prière, « Viens nous aider contre notre adversaire ». Mais entre le 7 et le 13, il y a de la réflexion. Et donc, il y a trois étapes dans sa réflexion. Dieu, oui, il est pour nous. Mais pourquoi? Parce qu'il a parlé, il a promis et il est puissant. Donc, d'abord, il a parlé. Au lieu d'avancer des hypothèses au sujet de ce que Dieu dit, David a ce bon réflexe de revenir à ce que Dieu a dit définitivement. Car le Dieu d'Israël n'est pas un Dieu silencieux, un Dieu qui se cache, qui est impossible à connaître. Non, c'est le Dieu qui parle. Verset 8, Dieu a dit dans sa sainteté, ou dans certaines traductions, dans son sanctuaire. Si c'est dans son sanctuaire, ça fait référence au tabernacle, l'endroit où Dieu était présent au milieu de son peuple lorsque son peuple se déplaçait. Mais si c'est plutôt dans sa sainteté, cela ne précise pas le lieu d'où venait cette parole de Dieu. D'ailleurs, on ne sait pas comment cette parole elle est venue. Est-ce qu'elle est venue à travers un prophète ou un prêtre? Le souverain sacrificateur, ou directement au roi David lui-même, on ne sait pas. Et il ne se peut que nous lisions donc ceci et nous disons, oui, bah, il a parlé, je vois ça, mais ce serait sympa qu'il me parle à moi aussi, pour que je puisse connaître sa volonté pour mes circonstances à moi. Mais jusque-là, je n'ai rien entendu, vous savez. Comment puis-je entendre sa voix, moi? Et donc, c'est ici où c'est super important que nous lisions ces textes selon la trajectoire de la révélation du Dieu d'Israël. Et cette trajectoire de sa révélation nous mène au Seigneur Jésus-Christ. Si on ne fait pas cette lecture autour de cette, selon cette trajectoire, donc, au lieu de comprendre la volonté de Dieu à mon sujet, selon le filtre de la bonne nouvelle de Jésus-Christ, je serai en fait en train d'ignorer l'événement le plus important qui a jamais eu lieu, qui rend en fait assez simple l'écoute de la voix de Dieu aujourd'hui. Alors, pour nous aider avec cela, je vous propose de chercher, si vous avez une Bible ouverte sous vos yeux, l'Épître aux Hébreux. C'est ce que nous lisons pour le moment dans le plan de lecture. C'est là ce que Samuel avait cité pour nous tantôt. Et au début de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 1, nous avons un texte super important pour nous aider dans ce domaine. Verset 1 du chapitre 1 de l'Épître aux Hébreux. « Après avoir autrefois, à plusieurs reprises et de plusieurs manières, parlé à nos pères c'était nos ancêtres dans la foi, ceux du peuple d'Israël. Alors comment avait-il parlé à nos pères? Par des prophètes, à plusieurs reprises, plusieurs manières. Mais après avoir autrefois parlé ainsi, Dieu, verset 2, nous a parlé, nous des chrétiens. Comment ? Par le Fils, en ces jours qui sont les derniers. Donc, nous nous situons toujours aujourd'hui dans ces jours qui sont les derniers. Ces jours ont commencé après la croix, la résurrection, l'ascension et la venue de l'Esprit de Jésus-Christ. Et ces jours terminent lors du retour de Jésus-Christ. Entre-temps, nous sommes toujours dans ces derniers jours. Et dans ces derniers jours, Dieu a donné son dernier mot. Comment l'a-t-il fait? À travers le Fils. Le Fils, c'est Jésus. Et cette révélation de Dieu, c'est le point culminant de cette trajectoire. Tout ce que Dieu a à nous dire, ça se résume maintenant en Jésus. Est-ce qu'une révélation inférieure par rapport à ce que David a entendu ou supérieure? Mais voyons, juste brièvement, toujours dans Hébreux chapitre 1, le CV de ce Fils. Verset 3, lui qui est le rayonnement de sa gloire, l'expression de son être. Donc, voir Jésus, c'est voir Dieu. Que fait-il? Celui qui soutient toutes choses par sa parole puissante. C'est pas mal ça. Soutient tout le monde. Le monde dans son ensemble, l'univers dans son ensemble, il soutient cela encore aujourd'hui par sa parole puissante. Et qu'est-ce qu'il a accompli, verset 3? La purification des péchés. Oui, c'est grandiose, cette révélation de Dieu qui a eu lieu dans le Fils. C'est suffisant cela pour nous. C'est son dernier mot. Dieu nous a parlé définitivement, suprêmement dans le Fils. Donc, entendre Jésus, c'est entendre Dieu aujourd'hui. Ça, c'est sûr, ça, c'est solide. Ça ne changera pas. C'est son dernier mot, c'est fiable. Et bien sûr, son mot, son dernier mot dans le Fils est lié à ce qu'il a promis. Donc, tout d'abord, il a parlé, mais bien sûr, ce qu'il a parlé révèle ce qu'il a promis. Donc, deuxième chose que David fait, c'est de se rappeler des promesses de Dieu au sujet de la nation d'Israël. Et qu'avait-il dit dans ce texte à partir du verset 8? Je triompherai, je partagerai Sichem, je mesurerai la vallée de Sukkot. Galaad est à moi, Manassé est à moi, Éphraïm est le casque de ma tête et Juda mon sceptre. Ben, je ne sais pas pour vous, mais ces noms, lorsque moi je les entends, me paraissent toujours un peu obscurs, n'est-ce pas? Je ne les connais pas d'habitude. Je dois aller chercher une Bible d'étude pour retrouver où se trouvaient ces différents endroits. Mais si j'arrive à Bruxelles, et je disais à un Bruxellois que déjà j'avais des maisons à la rue Neuve, à l'avenue de Teveren, à l'avenue Louise, la chaussée de Waterloo, vous serez d'office impressionné par ma gamme de biens. Waouh! Lui, il a de quoi dans son portefeuille, hein, si vous voulez. Bah, de même, ces noms qu'évoque ici David confirme la gamme de biens dont possède le Seigneur. Ces noms couvrent tout ce qui se trouve dans la terre promise, à l'ouest du Jourdain, Sichem, à l'est, Sukkot, Galaad aussi est à l'est, Manassé, à l'ouest, Éphraïm, c'est la tribu la plus importante au nord, et Juda, c'est la tribu la plus importante. Ils sont tous ce que dit le Seigneur, à moi Galaad, Manassé, c'est à moi, le casque de ma tête, c'est Éphraïm. Ça désigne donc sa puissance pour défendre son peuple. Et mon sceptre, c'est Juda, désignant son règne, son autorité. Dieu a-t-il abandonné son peuple et ses promesses? Bien sûr que non. Bien sûr que non, le pays promis lui appartient. Et verset 10, il jette un œil maintenant sur les nations qui entouraient Israël. Moab, ben oui, c'est ma toilette, c'est le WC, c'est là où je lave mes mains. Édom, ah oui, ça c'est le petit esclave qui ramasse mes chaussures quand je rentre chez moi. Et vous, les petits Philistins, là, vous voulez pousser ces cris contre moi? Ben, c'est risible de penser que le Seigneur a abandonné son peuple. Les promesses de Dieu ne sont pas en doute. Et vous savez, cela reste le cas. En Christ, avec la révélation de Dieu dans le Fils, nous savons que cette terre promise, comme disait l'auteur de l'Épître aux Hébreux, la terre promise dans l'Ancien Testament n'est pas la destination finale pour le peuple de Dieu. Non, le repos, c'est encore à venir devant nous, le repos que le Seigneur donne pour l'éternité auprès de lui dans la nouvelle création. Et le peuple de Dieu d'aujourd'hui se compose non pas de ceux et celles de la descendance physique d'Abraham, le peuple d'Israël dans ce sens-là, non. Mais se compose aujourd'hui de ceux qui partagent la même foi d'Abraham. Et nous devons, en tant que croyants en Christ, persévérer, entrer dans ce repos. Et pour nous donner accès à ce repos, qu'a-t-il fait Dieu? Ben, en Christ, il réconcilié nous réconcilier avec lui-même. Il a effectué, nous avons entendu, la purification de nos péchés en offrant son propre sang pour que notre culpabilité ne soit plus sur notre compte à nous, mais soit mis maintenant sur son compte à lui. Voici ce que le Seigneur a fait pour nous en Christ. Alors cela nous fait penser à un texte de l'Épître aux Romains. Donc l'Épître aux Romains, chapitre 8, c'est bien connu. Verset 31, « Que dirions-nous donc à ce sujet? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ?» Comment savons-nous donc qu'il est pour nous? Lui qui n'a pas épargné son propre Fils. Ce Fils qui soutient tout par sa parole puissante, qui est le rayonnement de la gloire de Dieu. Dieu ne l'a pas épargné, mais l'a livré pour nous tous sur la croix. Alors comment ne nous donnera-t-il pas aussi tout avec lui par grâce? Oui, Dieu est pour nous en Jésus-Christ. Donc il a parlé, il a promis, et du coup, et cela va de soi, il est puissant. David, à partir du verset 11, commence à avoir l'air un peu plus sûr. Pourquoi? Il demande, « Qui me mènera dans la ville fortifiée? Qui me conduira jusqu'en Édom? » Oui, maintenant il comprend avec Dieu à ses côtés, il est sûr de la victoire. Parce que Dieu est un Dieu puissant. D'abord, il se rappelle de sa puissance contre le peuple de Dieu. Verset 12, « N'est-ce pas toi, ô Dieu, qui nous avait repoussés, qui ne sortait plus, ô Dieu, avec nos armées ?» Et ensuite, il se rappelle de cette même puissance, où il réclame cette même puissance pour lui, en lien avec les promesses de Dieu. Verset 13, « Viens nous aider contre notre adversaire, le secours de l'homme n'est qu'illusion. » Et cela ouvre une petite fenêtre, cette phrase, le secours de l'homme n'est qu'illusion. Une petite fenêtre sur le pourquoi il y avait défaite précédemment. Car il paraît que ce peuple dépendait d'eux-mêmes et non pas de leur Dieu. Ils prenaient leur Dieu pour acquis. Bien sûr, tout ira bien, il disait, car Dieu est à nos côtés, n'est-ce pas? Il est le bon Dieu, c'est ça son boulot. Nous sommes, après tout, le peuple de Dieu. Donc, où est le problème? Bien sûr, il y aura la victoire. C'est un peu ce genre de choses qu'on suppose a eu lieu lors de cette défaite. Et en ce faisant, ils dépendaient d'eux-mêmes. Ils ne cherchaient plus la face de leur Dieu. Ils se croyaient forts en eux-mêmes. Et ainsi, Dieu devient un petit Dieu qu'on met dans notre poche, qui est là pour faire notre volonté. Il n'est plus le Dieu devant lequel nous devons nous agenouiller ou devant qui nous disons que ta volonté soit faite. Cela, ça reste le danger, chers frères et sœurs, pour nous, de vouloir prier à Dieu que ma volonté soit faite, même en tant que chrétien. Présupposer que Dieu est là pour me donner tout ce que moi je veux dans cette vie. Je veux un travail stable. Je veux une famille stable. Je veux une vie intime stable. Je veux une réputation professionnelle stable, une santé stable, des revenus stables, et ainsi de suite. Ce sont des choses que nous voulons à un point où nous exigeons à Dieu de nous les donner. Et lorsque dans sa providence, il nous prive de l'une ou l'autre de ces choses, nous nous demandons pourquoi Dieu est contre nous. Croyons en Christ. Je vous supplie de ne pas traiter Dieu ainsi. C'est de diminuer le vrai Dieu, un petit Dieu que nous avons créé à notre propre image. Un Dieu créé par l'homme n'est pas le vrai Dieu. Mais nous dit ce texte, le secours de l'homme n'est qu'illusion. Nous fier à nous-mêmes n'est pas le secours qu'il nous faut. Nous devons apprendre une nouvelle fois avec David de dépendre de Dieu. Verset 14 termine le psaume. Avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est lui qui écrasera nos adversaires. Avec Dieu, car lui seul est puissant pour mener la victoire dans le combat. Combattons donc avec sa force et non pas avec la nôtre. Et donc ici, nous devons encore juste faire attention de suivre la trajectoire de la révélation biblique. Car pour David, le fruit de ces paroles, de cette pensée au verset 14, c'était quoi? C'était une victoire écrasante contre les Édomites. Verset 2 parle de 12 000 Édomites vaincus dans la vallée du sel. Plus tard, dans les récits de 2 Samuel à 1 Chronique, vous allez voir qu'il parle même de 18 000 personnes, de 18 000 hommes vaincus dans la vallée du sel. Probablement, le chiffre est différent juste parce que cela a été fait à la fin de la campagne, tandis que le 12 000, c'était un chiffre intermédiaire avant d'avoir toutes les données en main. Vous pouvez m'en parler si cela vous trouble. Mais nous ne combattons pas contre les Édomites, qu'ils soient 12 000 ou 18 000. Le peuple de Dieu, de la nouvelle alliance en Christ, c'est un peuple international, de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Nous ne partons plus en guerre. Notre combat, c'est de tenir jusqu'au bout pour entrer dans ce repos dont Samuel a parlé tantôt dans ce texte de Hébreux chapitre 3. De pouvoir donc proclamer Christ, de faire des disciples, malgré de l'opposition dans ce monde. Et donc un dernier texte pour nous aider à comprendre le combat pour nous se trouve dans 2 Corinthiens chapitre 10. 2 Corinthiens chapitre 10 et à partir du verset 3. Là, nous lisons, « Nous ne combattons pas selon la chair, car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes devant Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et toute hauteur qui se lève contre la connaissance de Dieu. Nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Ça, ça résume le ministère de Paul et donc le combat dans lequel Paul était engagé. Et ce texte donc doit orienter notre façon de réclamer le verset 14 de ce psaume. Parce que lorsqu'on dit que avec Dieu nous ferons des exploits, c'est lui qui écrasera nos adversaires, bah, là aussi nous pouvons aller vite à la dérive, vous savez. Quand nos adversaires, contrairement à ce que parfois on entend dans le milieu chrétien, ne sont pas des circonstances difficiles dans lesquelles nous nous trouvons. Mariage difficile, santé fragile, mort imminente, travail pénible, et ainsi de suite. Non, dire que ici, par la foi, ces adversaires-là seront écrasés, c'est de faire croire que nos adversaires sont encore charnels. Non, Christ, Dieu ne nous promet pas une soi-disant victoire hein, sur la tribulation, sur l'angoisse, la persécution, la faim, le dénuement, le danger ou de l'épée. Non, le combat n'est pas contre des mauvaises circonstances pour rendre nos vies plus paisibles. Non, un tel Dieu, une nouvelle fois, devient notre propre création, un Dieu conforme à nos souhaits. Non, notre combat, c'est contre toute pensée, tout raisonnement qui résiste l'obéissance à Christ, à son règne, à son autorité. De telles puissances, avec le diable derrière, bien entendu, veulent nous faire écraser, veulent nous persuader que oui, Dieu est contre nous. Que le Dieu qui s'offre à nous à la croix n'est pas un Dieu dans lequel nous pouvons croire, n'est pas un Dieu digne de notre confiance. Ils ont tort et nous devons combattre contre de telles pensées. Romains chapitre 8 nous dit que rien ne peut nous séparer de l'amour de Dieu en Christ Jésus. Notre Seigneur. Donc, toutes ces choses, quelles choses parlait-il? Il parlait justement de la tribulation, de l'angoisse, de la persécution, la faim, le dénuement, le danger, l'épée. Donc, toutes ces choses-là, ces circonstances dures et difficiles, nous sommes plus que vainqueurs. Alors, comment? Par celui qui nous a aimés. La vie chrétienne est un combat. Un combat de persévérer, d'entrer dans le repos. Un combat de ne pas douter de la puissance et de l'autorité de notre Dieu. Alors ce psaume nous appelle à faire appel à notre Dieu qui a parlé, qui a promis et qui est puissant. Combattant donc, chers frères et sœurs, par sa force. Dieu en Christ n'est pas merci Seigneur, contre nous, il est pour nous. Et si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Prions ensemble. Seigneur, quelle joie pour nous de nouveau contempler ta révélation finale, suprême, en Christ. Celui qui s'est donné pour nous, celui qui effectuait la purification parfaite des péchés, celui, oui, qui soutient toutes choses par sa main puissante, celui qui est le rayonnement de ta gloire, l'expression de ton être, de réfléchir ensemble, contempler une nouvelle fois, qui s'est donné pour nous, à la croix. Nous dépasse, Seigneur, mais nous voulons te dire à quel point nous nous réjouissons de ton amour pour nous, que nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous a aimés en Christ. Et donne-nous de tourner nos regards vers lui, donne-nous de vivre une vie de disciple dépendant de toi et non pas de nous-mêmes. Pardonne-nous pour nos idoles. Pardonne-nous pour les moments où nous avons pensé que toi, tu es là pour faire notre volonté, plutôt que nous sommes là pour faire ta volonté. Donne-nous d'entrer dans ce repos, de croire en Christ, de persévérer en lui, de mener ce combat contre tout raisonnement qui résiste à l'obéissance à Christ. Donne-nous de nous encourager les uns les autres dans ce combat. Et cela, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen.